Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro, Rémi Hermoso à la mise en onde pour ce début d'émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Avez-vous déjà entendu parler du gym liquide? Bien, c'est possible que non, parce que d'après mes recherches, il n'y en a que trois dans le monde entier, dont un à Montréal, donc on est bien chanceux. Et c'est considéré comme une forme d'entraînement de l'avenir. On va parler des bienfaits du gym liquide avec André Dionne, kinésiologue et responsable des programmes d'entraînement à l'UQAM. D'abord, je veux vous parler de l'importance des sens. Ça a, il paraîtrait, beaucoup d'impact dans le développement de l'enfant. Ça l'aide, entre autres, à découvrir le monde, à développer le contact aussi avec les autres, à réaliser des apprentissages. Et aujourd'hui, je vous parle plus particulièrement du toucher. Parce que le toucher, on l'oublie parfois, mais c'est un besoin qui est vital, se faire toucher. Et peut-être que dans notre culture, notre société, la vie qui va très, très vite, on oublie ça parfois. Aujourd'hui, la massothérapie pour les enfants avec Pierre Blais, massothérapeute, instructeur, formateur pour le programme de massage en milieu scolaire. Bonjour, Monsieur Blais,
oui,
Pierre.
Bonjour.
Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes instructeur. Bon, premièrement, vous êtes massothérapeute depuis 20 ans.
Oui.
Instructeur formateur pour le programme de massage en milieu scolaire. Ça, c'est depuis 2007.
Oui, que moi, je suis formateur, oui, effectivement.
Et vous êtes dans 30 pays.
Alors, pas moi, mais le programme.
Non, mais pas vous, parce que là, oui. Vous êtes à Montréal avec moi, mais oui. Le programme, oui.
Effectivement, on a dépassé le cap d'une trentaine de territoires de pays où est-ce qu'on a des instructeurs qui sont actifs.
Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui est aussi fascinant, d'après ce que j'ai lu sur le massage en milieu scolaire, c'est que l'un des bienfaits serait de contrer l'intimidation.
Il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits au toucher et au programme comme tel. Le programme n'a pas été mis en place parce qu'il y avait un besoin d'un outil contre la violence. En fait, la nourriture, le toucher, c'est une nourriture affective, comme vous le disiez si bien. Et de ce fait-là, il y a énormément de bienfaits à bien manger et à être bien touché. Alors, ça part autant à la naissance, mais au niveau scolaire, donc pour les enfants de 4 à 12 ans, il y a aussi lieu, quand on fait un programme qui est bien établi, d'apporter ce toucher-là à l'intérieur des classes parce que ça change complètement la dynamique de classe.
Ben oui, parce que les enfants de première année, par exemple, peuvent être amenés à masser les plus grands. Donc oui. Déjà, on a moins peur du grand, moins oui. Peur de se faire niaiser dans oui. La cour d'école. Oui. Donc déjà, ça crée un contact et on n'a pas peur de l'autre.
Ça change exactement toute l'ambiance de la classe, de l'école aussi. J'ai eu cette chance de voir des premières années masser des sixièmes années et je me souviens d'avoir été un premier année qui avait tellement peur des sixièmes années parce qu'ils étaient grands et étant le premier de la famille aussi, j'avais pas de grands frères et tout. Donc, nos expériences sont extraordinaires partout sur la planète. On a vraiment, mais vraiment pas d'expérience négative de dire ça a vraiment mal tourné notre truc. Et parce que le programme est bien monté, il est fait dans le respect, les enfants ne sont pas obligés de participer. Il y a toutes sortes de choses qui ont fait que le programme a dépassé vraiment la codification qui vient avec le toucher dans toutes les cultures. Et de fait, bien, le programme a commencé en Angleterre, là où les gens se touchent plus ou moins.
Hein, oui.
Ça n'a jamais arrêté. Ça ne fait que depuis l'an 2000, s'accélérer ce processus-là, où on est appelé à former des professeurs, former toutes sortes de personnes qui veulent justement amener le toucher dans la vie des enfants.
Et pourtant, je le disais en introduction, se faire toucher des enfants, c'est pas toujours bien vu dans notre société.
Non, on a beaucoup d'éducation à faire et on le sait parce que malheureusement, il y a eu trop de cas d'abus, puis il y en a encore, puis sûrement qu'il y en aura encore pendant plusieurs années. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est par l'éducation qu'on peut justement permettre à un enfant qu'il puisse reconnaître c'est quoi un toucher sain et un toucher qui n'est pas sain.
Oui.
Donc, c'est ce qu'on fait de l'éducation.
Ce qui est important à mentionner, c'est que les enfants qui se font masser dans le cadre du programme le font avec les vêtements et il n'y a pas d'adulte qui les masse.
En fait, c'est interdit. Même nous, instructeurs, jamais on touchera aux enfants, pas plus que le professeur. C'est pas que c'est dangereux pour la vie de l'enfant qu'un adulte lui touche, au contraire. Mais pour que ce programme se développe comme il s'est développé, c'est une règle qu'on s'est donnée qui est respectée. Et de ce cadre-là, ben, ce sont les enfants qui se nourrissent de par le toucher, qu'ils apprennent à maîtriser. Forcément, ils sont pas des professionnels et on vise pas à en faire des professionnels, mais on vise à leur permettre d'entrer en lien avec eux-mêmes, à savoir qu'est-ce qu'ils sentent quand ils se font toucher et aussi qu'ils soient capables de l'exprimer. Il y a des adultes qui n'arrivent pas à exprimer leurs besoins encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas appris ça. Par le biais de tout ce programme-là, il y a une tonne de choses qu'on va toucher, des objectifs que finalement, des fois, on n'a pas vraiment les outils. Les outils fonctionnent plus ou moins bien pour sortir l'enfant de son carcan. Et ce qui arrive aussi, c'est que ce volet-là scolaire, il est apporté à la maison par les enfants. Donc, on change aussi la vie familiale. Oui. On a des parents, des grands-parents qui deviennent instructeurs. On n'a pas de prérequis pour devenir instructeur autrement que vouloir amener ça dans la vie des enfants.
On le sait, dans les écoles, il y a aussi des enfants à besoins particuliers. Mm-hmm. Est-ce que eux aussi conçoivent bien ce programme-là? Je pense, par exemple, Pierre Blais, aux enfants qui vivent avec l'autisme. Mm-hmm. On sait que des fois, le contact est plus difficile avec l'autre, se faire toucher. Mm. On fait comment avec ces enfants-là?
Notre programme est inclusif pour tous les enfants sur la planète. Quelles que soient leurs conditions, on va s'adapter à leurs besoins. Mais je vous dirais que nos plus beaux résultats, on les a avec les enfants avec lesquels on a le plus de difficultés. J'ai eu la chance, justement, étant formateur, d'avoir fait mes expériences dans plusieurs écoles avec plusieurs types d'enfants. Avec étiquette, quelle que soit l'étiquette, c'était souvent avec ces enfants-là avec qui on a plus de difficultés au niveau de l'apprentissage qu'on avait des beaux résultats. Vous parlez de l'autisme, je me souviendrai toujours dans une école où est-ce que, à l'école de Charles Bruneau à Montréal, où est-ce qu'il y avait 3 professeurs pour une 12aine d'enfants dans la classe. Et il y avait un autiste que, bon, nous, on ne connaît pas les étiquettes comme instructeur des enfants. Mm-hmm. Et en même temps, les professeurs ont regardé cet enfant-là qui agissait comme un enfant dit un peu normal. Hein? Ils se sont dit, ah, mais il parle, cet enfant-là. Les professeurs n'avaient jamais entendu parler vraiment cet enfant-là. On s'entend qu'au niveau du toucher, c'était extrêmement difficile pour lui aussi, alors qu'il agissait comme un enfant tout à fait dit normal. Mm. Donc, ça vient nourrir quelque chose de tellement profond chez les enfants. Et les enfants qui ont des besoins spécifiques, souvent, justement, ça sort parce que les besoins fondamentaux ne sont pas remplis, sont pas comblés. Et c'est fou ce que les enfants entre eux peuvent s'apporter dans ce sens-là.
Mm-hmm. Je reviens aux bienfaits. On a parlé du pouvoir peut-être de contrer l'intimidation, mm-hmm. également de pouvoir exprimer ses besoins.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Des besoins, en fait.
Des bienfaits, plutôt.
Des bienfaits, oui. Je veux dire, au niveau de l'apprentissage comme tel, ne serait-ce que de prendre un peu un temps pour s'arrêter. On sait que le cerveau a besoin d'un temps pour colliger toute l'information. On a besoin de s'arrêter. Bon, c'était peut-être pas des gens très connus, mais JFK, Johann Brahms, Thomas Edison, Léonard de Vinci, c'était tous des gens qui faisaient des siestes. C'était des gens qui s'arrêtaient pour vraiment permettre aux batteries de se recharger, mais au cerveau de comme faire le vide pour repartir. Donc, il y a énormément de bienfaits au niveau de l'apprentissage des enfants. Certains professeurs sont obligés de faire des périodes de noirceur. On ferme les lumières, on veut que les enfants se couchent sur le bureau puis qu'ils ne bougent pas, juste pour qu'ils se calment. On arrive avec une solution qui est plus productive à ce niveau-là parce qu'en même temps, les enfants apprennent à se reconnaître mm-hmm. et à communiquer. Ça, c'est la pierre fondamentale, vraiment une pierre d'assise pour que la dynamique dans la classe change. C'est-à-dire que l'entraide va être plus facile. Dans la cour d'école, les enfants, on les entend se dire « Hey, tu m'as pas demandé la permission pour me pousser. » Parce qu'il y a une permission à demander avec un enfant masse un autre enfant.
Mm-hmm.
Donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui ont été intégrées dans le programme pour en faire un programme qui, justement, répond à plusieurs besoins, que ce soit autant au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'intimidation. On a des histoires fabuleuses au niveau d'enfants qui ne s'aimaient pas la face, mais vraiment pas, sans qu'on comprenne pourquoi. Ces enfants-là voulaient travailler ensemble en massage. C'était un peu un non-sens. Et juste pour vous dire, on a su dernièrement que ces deux enfants-là en question, ben, il y en a un qui s'est marié, puis l'autre était son best-man. Donc, même au niveau de l'adulte, ça a changé. On a plein d'histoires comme ça. Et on ne veut pas que ça soit juste anecdotique, mais c'est ce qu'on voit sur le terrain. On sait que ça fonctionne, notre truc.
Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de peut-être plus actif, parce que je vous écoutais et je me rappelais, moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était la relaxation, on prenait des respirations, on nous sensibilisait à ça. Oui. Tandis que là, la massothérapie, le massage, c'est quelque chose où nous-mêmes, on peut être actifs envers l'autre, oui. envers soi et envers l'autre.
Tout à fait. On n'est pas une espèce de pilule miracle. Il y a plein de choses positives qui existent, le yoga dans les écoles. Et de fait, on n'est pas les premiers à avoir introduit du toucher. Je connais des adultes qui ont vécu ça comme à leur l'école élémentaire. Ils me disaient que c'était dans les plus belles choses qu'ils avaient vécues à ce moment-là. Donc, oui, tout à fait, il y a de la place pour plein de trucs qui se passent. La particularité de notre programme, c'est d'amener les enfants en relation. Ça, c'est vraiment, vraiment unique. Et de ce fait, on sait que ça change les choses comme on le constate. Et bon, on se dit, nous, on a besoin d'adultes allumés qui comprennent le sens de ce qu'on veut faire. On a un monde qui est très changeant, qui est très rapide, qui est très stressant. Les enfants, comme les adultes, ont besoin de ce toucher-là pour se recentrer, sentir leur corps. On est dans un monde virtuel.
Oui.
Où les enfants bougent de moins en moins. Ils font par hyperactivité, par cette énergie-là, elle doit sortir au niveau de l'enfance. Et on leur indique une façon de travailler avec cette énergie-là. Ils ont toujours besoin de bouger, ça changera. Il ne faut pas que ça change. Mais le toucher, c'est un apprentissage au niveau d'une motricité fine aussi. Donc, il y a plein oui. de trucs qui sont loin d'être juste une espèce de temps à dire, mais où est-ce qu'on en est rendu que les enfants se massent à l'école? Mais c'est vraiment n'importe quoi. On entend ces commentaires-là. Et en fait, on les reçoit et on dit, écoutez, nous, on ne vous demande pas de nous croire. Venez nous voir. Venez voir les enfants. Donnez-nous des enfants et faisons l'essai. Mm-hmm. Et à ce jour, si ce programme n'était pas aussi performant qu'il l'est, à mon avis et moi, je ferais d'autres choses que ouais. ça. Et voilà.
Et c'est ce que vous dites aux parents qui sont récalcitrants, de venir mm-hmm. vous voir, de venir assister aux classes, parce que j'imagine qu'il y en a au sein des
absolument,
écoles.
Absolument, absolument. Ouais. On a des parents qui nous ont monté des campagnes publicitaires nationales à travers le Québec parce qu'ils ne voulaient absolument pas voir leur enfant. Des parents que j'ai rencontrés en conseil d'établissement à qui j'ai pendant plus d'une heure donné réponses et exemples et tout ça. Mais ces parents-là, ces gens-là sont jamais, ils ne viennent jamais voir. La peur est telle que de dire, d'un coup, je me serais trompé. Ils vont retirer leur enfant. Et ça, c'est des cas très rares, je vous oui. dirais, quand mm-hmm. même. C'est des cas rares. Faut pas... Le nombre de courriels que je reçois d'instructeurs me disant, écoute, ça fait seulement deux fois que je vais dans la classe, les parents nous renvoient des notes en disant, merci, c'est extraordinaire ce que vous avez amené. Ma fille m'a fait un massage et moi, je l'ai fait à mon enfant, et etc., etc. C'est pour ça qu'on fait ça.
Et comme vous le disiez, ça change la dynamique familiale parce que l'enfant revient, il a peut-être envie de masser son petit frère, sa petite sœur, ouais. D'en parler aussi à ses parents. Et là, ça fait boule de neige.
Exactement. À Bruxelles, j'ai eu un papa comme ça. Je me suis mis à genoux pour lui demander un compte rendu écrit de son vécu familial parce qu'il était là, parce que l'enfant l'avait amené à la maison. Il voulait vraiment connaître le programme. Et oui, ça, c'est notre réalité. C'est ce qui nous fait, c'est notre nourriture. C'est ce qui nous anime parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire des trucs à l'international comme ça. C'est quand même bénévole, tout ça. Toute la structure de Missa International et les branches, les gens qui s'en occupent dans chaque pays et tout ça. Oui, on a des gens qui sont très allumés, qui voient les résultats et qui comprennent pourquoi mm-hmm. on fait ça.
En ce qui a trait à la technique, Pierre mm-hmm. Blais, j'imagine qu'on ne masse pas un enfant comme un adulte.
Ça me fait toujours rire, cette question-là, parce que pour enseigner le massage depuis 20 ans, et souvent d'entendre des directeurs d'école mais de dire aux parents, non, mais soyez sans crainte, c'est pas comme pour les adultes. En fait, oui, moi, mm-hmm. je prends les mêmes manœuvres dans bien des cas, pas toutes les manœuvres, mais l'idée, il faut comprendre, c'est que l'adaptation se fait surtout au niveau de la pression. Alors, il faut voir que ce n'est pas un adulte qui masse un enfant, à part quand c'est le parent. Mais en même temps, c'est d'une beauté de masser un tout petit de 4-5 ans. Si on masse des bébés, des parents, on enseigne aux parents à masser les bébés. Donc, il n'y a pas de problématique. Et la technique, je vous dirais, elle n'est pas sans importance, mais elle est quand même secondaire dans le sens où est-ce que ce qui compte, c'est la relation, c'est mm-hmm. le contact et c'est la capacité à l'enfant qui reçoit de dire à son copain, vas-y un peu moins fort, vas-y un peu moins vite. Ça, c'est important de pouvoir s'exprimer. Donc, les enfants, ils apprennent et on n'a aucun enfant qui a subi aucune séquelle ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais les techniques viennent de différentes origines, autant du massage suédois que du massage énergétique et tout ça, de la réflexologie, par exemple. Et bien, dans les 15 manœuvres, on touche le dos, la nuque, la tête et les bras. On ne touche pas en bas de la ceinture, comme on pourrait dire, ou la partie antérieure. Et comme ça, ça va très bien.
Et les enfants sont couchés ou ils restent debout?
Non, ils sont assis sur leur chaise ou on le fait dans les parcs l'été aussi. Donc, ils sont assez en tailleur, en indien. Mais on n'a pas besoin d'équipement avec ce programme-là. Zéro équipement, pas d'huile. Ça se fait sur les vêtements, en groupe. Avec supervision d'un adulte. Donc, nous, instructeurs, on n'est jamais seuls avec les enfants aussi parce que notre but, c'est que l'adulte qui a compris à quel point ça vient nourrir les enfants va tenir cette activité-là. On a des professeurs qui vont le faire juste avant l'examen parce qu'on sait que les gens sont tendus, hein, les enfants sont tendus comme tout le monde avant un examen. Et les résultats, on a plein d'études scientifiques, pas juste sur leur programme, mais sur le toucher en tant que tel et on sait que ça va permettre une meilleure performance autant au niveau des athlètes, mais au niveau scolaire aussi, au niveau d'examen, parce que ça amène un outil de gestion de stress.
Mm-hmm. Vous diriez quoi, Pierre Blais, aux parents qui nous écoutent en ce moment et qui ont envie...
Allez-y. Allez-y. Écoutez, c'est une nourriture, le toucher. C'est pas la qualité technique tant que le lien d'attachement qui se crée qui est important. Et forcément, avec le temps, il ne faut pas hésiter à demander à l'enfant ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ça va varier d'un être humain à un autre. Il n'y a pas deux adultes, deux enfants qui aiment les mêmes choses de la même façon, des fois. Donc, l'art de poser une question, c'est quelque chose d'extrêmement riche parce qu'on fabule dans notre tête, on imagine plein de choses, puis on a plein de peurs. Mais dans le fond, quand on va vérifier, donc c'est de la communication, quand on pose la question, est-ce que tu aimes ça? Où est-ce que tu voudrais être touché? Vous savez, j'ai le bonheur d'avoir un enfant qui a maintenant 16 ans, avec qui j'ai initié le toucher dès notre début. Et je la réveille le matin avec un petit massage comme ça. Et c'est comme encore, et encore et encore.
Elle en a de la chance.
Ouais, ben moi aussi, j'en ai de la chance. J'ai un enfant fantastique. Mais ce lien-là qui s'est créé, ça me fait dire, allez-y les parents. N'ayez pas peur de la technique. Allez-y en douceur. Il ne risque pas d'y arriver quoi que ce soit. Et posez des questions. Demandez à l'enfant ce qu'il aime. C'est là que le lien se fait. C'est là que... Quand cette communication est là, les parents, les professeurs voient les enfants dans un autre cadre. Même l'enfant qui a de la difficulté scolaire, il est souvent un enfant très kinesthésique. Quand vous parliez de sens tout à l'heure, justement, avec tout le visuel aujourd'hui, l'audiovisuel, l'informatique, tous les jeux vidéo, ces choses-là, on a oublié le kinesthésique et on l'oublie encore. Et c'est l'enfant apprend avec son corps, surtout en jeune âge comme bébé. Oui. Mais ce n'est pas à 4 ans qu'il devient un être, un futur étudiant universitaire. Oui. Ça ne se passe pas aussi vite que ça.
Oui, et on reste enfant parfois bien longtemps.
Oui.
je reviens un petit peu à l'approche pour les parents. Si on a envie de masser notre bébé, à partir de quel âge on peut le faire?
Ah, il n'y a pas d'âge. Écoutez, avant, un bébé qui était prématuré, on le mettait dans l'incubateur, on ne le touchait pas. On sait maintenant que la méthode kangourou, qu'en collant les bébés peau à peau sur les parents, et pas juste sur la mère, mais le père aussi, ces bébés ont des gains de poids plus rapides. Alors, le toucher, c'est une nourriture, on ne le dira jamais assez. D'être en contact, on ne se sent plus seul, on se sent vraiment entouré. Et ce lien d'attachement-là fait que dès la naissance, c'est indiqué. Le bébé s'est détaché de la mère pour chercher à quelque part un contact. Et quand ce contact-là est là, c'est magnifique, quoi. Ça va évoluer au niveau de toute la vie, mais c'est le dernier sens qu'on perd. Hein? Oui. Même les personnes en phase de terminale sentent toujours le toucher alors qu'ils ne goûtent plus rien, ils ne voient plus rien, ils ne sentent plus rien des fois, mais le toucher, ils reconnaissent.
Oui. S'il y a des directeurs d'école ou des enseignants qui nous écoutent en
parents.
Ce moment, ou des parents, ça j'imagine, ça se peut des parents, mais bon, des enseignants ou des directeurs, là, ils vous contactent de quelle façon?
Ah, il y a plusieurs façons. D'une part, vous aurez beaucoup d'informations sur le site de missa-quebec.org, donc missa-quebec. .org et là-dessus, on a des vidéos, on a des entrevues radio aussi. Il y a vraiment de l'information. On peut nous rejoindre de par le site aussi. Autrement, directement, on peut arriver à ma boîte courriel par Massage Action, donc Massage Action dans un seul mot, acommercialsympatico.ca ou toujours le 514-766-3373, le 514-766-3373.
Pierre Blais, massothérapeute, instructeur, formateur pour le programme de massage en milieu scolaire. Merci beaucoup.
Ça m'a fait grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Bonjour André Dionne.
Oui, bonjour.
Vous êtes kinésiologue, et responsable des programmes d'entraînement à l'UQAM. Vous êtes là pour nous parler du gym liquide aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure en introduction que si les gens n'ont jamais entendu parler de ça, c'est possible parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gym liquide dans le monde. Je pense qu'il y en a un seul au Canada.
Oui,
et c'est le vôtre.
Exactement, oui.
Donc, assez innovateur comme technique d'entraînement.
Exactement. Donc, le gym liquide, c'est comme une salle d'entraînement, mais dans l'eau. Donc, on a des vélos aquatiques, des tapis roulants aquatiques, des trampolines, des steps, des aquapoles, ainsi qu'on fait de l'aquajogging en eau profonde avec des ceintures.
Donc, c'est de là que ça se distingue de l'aquaforme.
Exactement. L'aquaforme, souvent, c'est plus sous forme de routine, où il y a une musique, tout le monde fait la même chose, on suit le professeur en avant. Puis aussi, où souvent, la personne ne tient peut-être pas compte de tels problèmes d'une personne ou de l'autre, ou de la douleur à l'épaule, ou à la cheville, ou à la prothèse au niveau du genou. Donc, tout le monde fait pareil. Tandis que nous, c'est plus personnalisé selon la condition physique de chaque participant. Même si on travaille en groupe, chacun a son programme ou chacun a ses petites particularités qu'il doit faire attention ou travailler un peu plus que l'autre. Donc,
Et je pense que chaque séance est supervisée par un kinésiologue comme vous.
Exactement, un kinésiologue. Donc, eux, ils ont une formation universitaire à ce moment-là et ont en plus spécialisé en milieu aquatique.
Et il y a également des médecins qui réfèrent de plus en plus le gym liquide à vos bons soins.
Oui, c'est pas tellement connu. Donc, c'est pour ça que le médecin ne le réfère pas. Quand on a certains médecins qui ont vu le taux de succès de leur patient, que c'est plus facile pour son patient de mieux gérer sa maladie, donc puis que ça l'aide pour toute autre sorte de... Ça l'optimise son traitement, puis ça l'aide à perdre du poids, ça l'aide à se garder en forme, puis être plus fonctionnel. Donc, tout ça peut aider aussi aux problèmes médicaux que la personne peut avoir.
Et
donc,
également pour des gens qui ont des blessures ou même des maladies chroniques.
Oui, présentement, là, donc oui, tous ceux qui ont des problèmes musculo-squelettiques, que ce soit qu'ils viennent d'une chirurgie ou encore qui attendent une chirurgie, donc pré-chirurgie, ou encore tout simplement qui se sont blessés, qui ont un problème de cheville, de genou, de hanche, etc. Donc, il y en a même qui sortent de l'opération, qui ne peuvent pas mettre de poids sur leurs jambes, sur une des deux jambes. Donc, on les descend dans l'eau quand même avec une chaise. Ils peuvent aller bouger. Après ça, on progresse tranquillement selon le protocole du médecin. Donc, ça donne la chance à la personne de rester active, d'éviter le déconditionnement physique et de se garder en forme.
C'est assez fascinant tout ça. Également, je lisais que ça peut être très bien pour des gens qui seraient à risque d'avoir ou de développer des maladies cardiovasculaires ou même qui ont déjà souffert de certaines maladies cardiovasculaires.
Oui. D'ailleurs, je suis en train de faire une recherche justement sur les vélos aquatiques pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Puis, c'est intéressant. Ces gens-là pourraient bénéficier. Puis souvent, ces gens-là ne réussissent pas sur terrain sec, aller marcher assez rapidement ou encore aller faire du vélo assez pour élever leur seuil d'effort qui pourrait améliorer leur capacité cardiovasculaire. Donc, tandis que dans l'eau, c'est possible pour eux de pédaler plus vite, de courir plus vite en eau profonde, tandis qu'ils ne pourraient pas faire ça sur terrain sec. Donc, ça les aide à acquérir un certain niveau de condition physique.
Également, pour les gens qui sont en surpoids, peut-être que les articulations sont plus fragiles, les genoux, tout ça, mais là, l'eau aide à rester actif, même si on a quelques livres en trop.
Ça, c'est un bon point parce que dans l'eau, à cause du principe de la flottabilité et de la pression hydrostatique, par exemple, une personne qui pèserait 70 kg en dehors de l'eau n'en pèserait que 7 kg dans l'eau. Donc, imaginez tout ce qu'elle peut faire à 7 kg comparé à 70 kg en dehors de l'eau. Donc, effectivement, il y a une diminution des impacts sur les articulations. En plus, souvent, diminution de l'édème, si jamais il y a une personne qui a une inflammation. Donc, il y a beaucoup d'avantages de s'entraîner dans l'eau.
Et plus personne qui peut se plaindre qu'il fait trop chaud.
Exactement, bon point. À cause de ce qu'on appelle la conductivité thermique, c'est plus facile de dissiper la chaleur produite lors de l'exercice. Donc, on n'a pas chaud. Puis ce qui fait aussi que dans l'eau, il y a comme 10 battements de moins pour le même effort physique qu'on ferait en dehors de l'eau. à cause justement qu'on n'a pas besoin de se débarrasser de la chaleur, puis aussi à cause que la pression hydrostatique qui pousse, ça facilite le retour veineux, donc le cœur peut battre moins fort. Donc, il y a beaucoup d'avantages. C'est un autre avantage.
Est-ce qu'il y a des contre-indications?
La seule contrainte, même ceux qui ne savent pas nager, c'est pas un problème. Ceux qui ont peur de l'eau non plus, c'est pas un problème. Ceux qui veulent pas se mouiller les cheveux, c'est parfait aussi parce qu'on se mouille pas les cheveux. Mais les seules contre-indications que je peux voir, ce serait quelqu'un qui a une plaie ouverte, qui peut pas aller dans l'eau pour ça, ou qui serait allergique au chlore ou une raison. Mais à part ça, il n'y a pas de raison. Là, on peut prendre des gens de tout âge, là. C'est surprenant. Puis aussi, c'est pas juste pour ceux qui ont des problèmes, c'est aussi pour les athlètes, les jeunes, tout le monde qui a l'intention de s'entraîner de façon innovatrice.
Oui, je lisais même pour les athlètes qui seraient soit en deux entraînements très difficiles, mais c'est considéré comme un repos actif pour eux.
Oui, ça c'est un des volets, ça peut être du repos actif, comme ça peut être aussi pour récupérer plus rapidement suite à un gros match qu'ils viennent de faire, puis ils doivent faire un autre match, mais ça pourrait être aussi pour faire de l'entraînement, ce qu'on appelle en pliométrie, où est-ce que c'est, il y a beaucoup de sauts qui se passent sur terrain sec, mais on fait ces mêmes sauts-là dans l'eau, où est-ce que le poids est supporté, puis on y retire les mêmes bienfaits, sans risque de blessure. Donc, de plus en plus d'athlètes vont faire quelques-uns de leurs entraînements dans l'eau, et ça va les aider.
Est-ce que c'est individuel ou en groupe, l'approche?
Au Gym Liquide, on fait les deux. Donc, c'est de l'individuel, mais on travaille en groupe. Donc, c'est plus motivant. Même si la personne à côté de nous, on le fait en groupe, on est ensemble. Nos moniteurs se déplacent dans l'eau. Ils corrigent sur place. Donc, c'est les deux en même temps.
Et puis, ça ne demande qu'un costume de bain?
Exactement. Un costume de bain, c'est tout.
Pas d'autres équipements. Ben ça a quand même ses avantages, tout ça.
Oui, puis c'est que les gens, ce qu'on leur montre, ils peuvent après ça le répéter dans une piscine durant l'été chez eux, ou la piscine publique, ou la piscine municipale. Ou si, des fois, il y en a qui viennent chez nous parce qu'on est quand même, c'est à Montréal, puis eux demeurent en banlieue. Donc, ils viennent quand même pour un certain temps pour apprendre quoi faire pour eux. Puis après ça, ils vont retourner dans les cours d'aquaforme de leur municipalité, mais là, ils vont savoir quoi faire et ne pas faire et comment le faire.
En terminant, André Dionne, pensez-vous qu'il y aura d'autres gyms liquides qui vont pousser un peu partout?
On espère pour les gens. D'ailleurs, on donne des formations bientôt à Montréal au mois de mars et à Québec pour essayer de stimuler un peu là, les gens là, à partir de ce genre d'activité pour la population.
André Dionne, kinésiologue et responsable des programmes d'entraînement à l'UQAM. Merci beaucoup. Pour en savoir davantage, sport.uqam.ca. Il y a les tarifs et les horaires qui se retrouvent sur votre site.
Merci beaucoup.
Merci, au plaisir.
Bonne journée.
Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h, également bien présent sur Twitter et Facebook. Et puis, vous pouvez toujours nous joindre par le canalm.org. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye!